Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, l'heure de notre émission Une heure en Palestine. Cette émission est programmée sur Radio Galère 88.4 tous les mercredis de 18h à 19h. Elle est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, ce sont Palestine 13, groupe local de la FPS, et BDS Provence, groupe local de la campagne BDS France, qui ont préparé cette émission. Chaque association a une page Facebook, page Palestine 13 et la page BDS Provence, sur lesquelles vous trouverez des informations quotidiennes, des articles de fond, etc. Chaque association a aussi un site, le site de Palestine 13, http://www.assopalestine13.org. Et le site de BDS France, http://www.bdsfrance.org, avec de nombreuses informations également. Chaque association a aussi une boîte mail, asso.palestine13@gmail.com et bdsprovence, en un mot, @orange.fr. Ce soir, je vous propose d'écouter une partie d'une émission du site Acrimed. Acrimed est un observatoire critique des médias, qui analyse les médias et qui relève leur façon de fonctionner lorsqu'elle est un peu tendancieuse, on va dire. Cette émission, qui a été diffusée le 11 juillet sur l'antenne de Radio Cause Commune, s'intitulait Israël-Palestine, l'information au rabais. En fait, cette émission a servi à analyser le traitement qui a été fait par les grands médias des derniers événements de la séquence militaire du mois de mai 2021 qui a opposé Israël aux Palestiniens, en fait, opposé dans le sens Israël a attaqué les Palestiniens de Gaza principalement. Et en fait, les médias se sont réveillés, vous allez en entendre parler, se sont réveillés au moment où le Hamas a commencé à lancer des roquettes, alors que le problème venait de bien plus loin, venait de la volonté d'Israël d'expulser des Palestiniens de leur maison dans la banlieue de Jérusalem. Donc nous allons écouter l'interview de deux personnalités, c'est Jean Stern et Julien Salingue, deux journalistes, qui vont vous être présentés au cours de l'émission. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et à la semaine prochaine, rendez-vous pour une autre émission d'une heure en Palestine.
Avec nos deux invités, Jean Stern, journaliste Orient 21, et Julien Salingue, ancien rédacteur d'Acrimed, nous allons maintenant parler du traitement médiatique que les grands médias ont réservé à ce qu'ils ont appelé, comme de coutume, le retour du conflit israélo-palestinien. On parlera plutôt, comme le fait Alain Grech dans son article du Monde diplomatique de juin, de guerre sans fin contre les Palestiniens. 11 jours de conflit, à la mi-mai, écrit-il, qui ont fait 230 morts palestiniens et 12 morts israéliens. Tandis que le 18 mai, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires faisait état de 450 bâtiments détruits ou endommagés par les bombardements israéliens sur Gaza, ayant entraîné le déplacement de plus de 52 000 Palestiniens.
Bonjour Jean Stern.
Bonjour.
Alors, tu es journaliste, anciennement pour Libération, La Tribune, pour Amnesty International et pour le site Orient 21, dont le directeur est Alain Grèche. Tu as publié plusieurs ouvrages, dont Les patrons de la presse nationale, tous mauvais, aux éditions La Fabrique, et Mirage Gay à Tel Aviv en 2017, aux éditions Libertalia. Tu es l'auteur d'une enquête en 10 volets, en tout cas au compteur aujourd'hui, tous publiés sur le site d'Orient 21 et qui portent, tu l'écris, sur les nombreux cercles d'influence favorables à Israël en France. France-Israël, lobby or not lobby, ça c'est le titre global de l'enquête. Et nous te recevons aujourd'hui pour parler plus particulièrement du dernier volet, qui est paru à la mi-mai, et que vous avez titré « Match truqué sur le ring médiatique ». Truqué parce que tu énumères et documentes un certain nombre de pressions en France qui pèsent sur les journalistes et sur la fabrique de l'information. Alors la première question, d'où viennent ces pressions, quelles formes prennent-elles et quelles conséquences ont-elles sur l'information?
Alors il faut les distinguer, et je dirais qu'on va, pour simplifier, en distinguer deux types. Les premières pressions sont d'abord les pressions internes aux rédactions, les pressions des hiérarchies. Il faut savoir que depuis maintenant une trentaine d'années, donc un certain temps, des organismes israéliens ou des organismes américains ou des organismes français et européens liés à Israël organisent un certain nombre de voyages de presse en Israël, où les journalistes sont invités, trimballés, font un certain nombre de rencontres, qui sont des voyages, entre guillemets, de découverte. Mais évidemment, comme ces voyages sont organisés par Israël, c'est des voyages qui permettent une vision, disons, favorable à Israël globalement, même si, évidemment, les journalistes conservent en principe tout leur libre arbitre. Et cette évolution, c'est-à-dire ces dizaines, je dis bien dizaines, de journalistes français et parisiens qui sont allés ces dernières années en Israël, dans le cadre de voyages organisés et financés par Israël, sont en gros un espèce de cercle qui est favorable à Israël parce que aussi l'idéologie aujourd'hui a évolué et que l'idéologie globale dominante est favorable à l'Israël. Ça a commencé là dans les années 90 et puis ça s'est accéléré à partir de 2001 avec d'une part sur le plan local l'échec petit à petit des accords d'Oslo, donc la désillusion sur une possibilité de paix entre Israéliens et Palestiniens, et d'autre part cette espèce de grand salmigondi idéologique sur la lutte contre l'islam, le Hamas et les organisations palestiniennes en général étant identifié par le gouvernement israélien et par leur relais en Occident comme non pas des organisations de libération nationale, des organisations de lutte politique, mais comme des organisations islamistes vivant à la victoire de l'islam contre l'Occident et contre l'Occident judéo-chrétien, ce qui est en soi une aberration puisque l'Occident n'a jamais été judéo-chrétien, puisque tout le monde sait que les chrétiens ont exterminé les juifs pendant de très nombreux siècles, bien avant que les musulmans ne soient en conflit direct avec les juifs. Au contraire, en Espagne, les musulmans étaient plutôt proches et en amitié, disons, on va dire, avec les juifs, et c'était le cas aussi une grande partie au Maghreb. Donc on a inventé ce combat idéologique et les rédactions en chef parisiennes se sont mis dedans. Et donc, elles font régner non pas la loi du silence, mais la loi du bon sujet, on va dire. Hein, on va dire qu'il y a certains sujets sur Israël qui vont passer plus facilement que d'autres. On va dire aux journalistes que finalement, les gens s'intéressent moins au conflit. On va relativiser les choses. On va mettre en avant, ce qui est une réalité économique dans la presse française, des questions de coût. Donc on va supprimer des correspondants, on va donner moins de budget à des équipes de télévision, on va supprimer des bureaux de télévision. TF1, la première chaîne d'information en France, hein, faut jamais l'oublier, a supprimé son bureau de Jérusalem il y a 2 ans maintenant. Donc si vous voulez, voilà, petit à petit, moins de moyens, moins de sujets, on va mettre en cause un petit peu aussi parfois les réactions des lecteurs hostiles. Et là, on arrive au deuxième cercle. Le deuxième cercle est composé d'un certain nombre de personnalités, mais finalement assez peu nombreuses, et je n'ai pas tellement envie de citer leurs noms, parce qu'elles sont dans l'air du temps, et chacun pourra les reconnaître, mais c'est des personnalités qui vont harceler les journalistes, et notamment les journalistes de terrain, et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que la bataille, elle devient plus idéologique, elle devient sur le terrain. Évidemment, le premier exemple de ça, c'est Charles Anderlin, qui a été, comme journaliste de France 2, harcelé juridiquement parlant par un certain nombre de gens, et il a gagné devant la Cour de cassation. C'est une victoire, et pourtant, on continue par un certain nombre de sites, de relais, de tweets, d'infamie, parce que c'est de l'infamie, à accuser Charles Landerlin d'avoir truqué un reportage. Et ça, ces gens-là ont mis une telle pression sur les journalistes et continuent à mettre une telle pression sur les journalistes et les correspondants locaux que l'ancien correspondant du Monde à Jérusalem a employé à leur propos un terme que je trouve très juste, qu'il appelait les fourmis haineuses. Donc c'est des gens qui sèment la haine, qui vont semer le doute sur tous vos reportages, qui vont harceler sur les réseaux sociaux, sur votre messagerie, sur etc. Mais aussi, et c'est très important, via les relais militants, harceler les rédactions en chef. Et donc, petit à petit, les rédactions en chef qui déjà avaient envie de rester prudentes sur le sujet, reculent encore un peu plus face à cette espèce de pression qui n'est pas si importante en termes numériques, mais qui est très importante en termes de diffusion. Un mot pour vous dire pourquoi la diffusion. Parce que, évidemment, la communauté juive francophone en Israël est relativement importante. Maintenant, on parle de centaines de milliers de personnes. Et la communauté juive française, et notamment ses instances représentatives, le CRIF en particulier, ont amorcé au début des années 2000 un virage politique qui est un virage politique de soutien direct à la politique israélienne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on dit que le CRIF, et je partage assez ce point de vue, est aujourd'hui aligné sur le Likoud et sur les positions idéologiques de la droite et de l'extrême droite israélienne. Et donc évidemment, ça fait des relais dans l'opinion juive, mais aussi au-delà, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus la législation française qui fait que le combat dit antisionisme est assimilé à de l'antisémitisme, fait qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour les journalistes indépendants ou les journalistes salariés correspondants en Israël de s'exprimer librement et de faire part de ce qu'ils voient, c'est-à-dire d'une réalité de terrain.
Cause commune, la voie des possibles.
Ce qui se dessine très bien à travers ton reportage, c'est le poids des hiérarchies éditoriales. Parce que les pressions venues de militants, d'institutions ou d'organisations pro-israéliennes semblent dirigées vers des professionnels qui occupent les positions de pouvoir à l'intérieur des rédactions. Et qui vont les répercuter ensuite sur leurs propres confrères qui sont eux sur le terrain. Alors c'est peut-être un petit peu à la serpe là ce que je dis, mais est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce que montrent tes entretiens avec les correspondants sur cet aspect des choses?
Eh ben, c'est deux choses. C'est par exemple le CRIF, pour certains journaux, qui va traiter directement et par-dessus la tête des journalistes sur place avec le gouvernement israélien. Un de mes confrères raconte dans l'enquête que son rédacteur en chef est venu interviewer le premier ministre de l'époque sans même le prévenir, ce qui est contraire pour le coup à tous les usages du journalisme et même à la simple courtoisie. D'autres m'ont raconté des pressions directes que leur rédaction en chef avait de la part du CRIF. Alors certains y résistent, hein, il ne faut pas jeter complètement le bébé avec l'eau du bain, mais d'autres ben, n'y résistent pas et n'en parlent pas forcément à leurs équipes, mais de fait vont refuser des sujets, vont discuter d'autres sujets, et le cas de l'audiovisuel, de la radio et de la télévision est particulièrement probant, puisque là en plus vous avez la possibilité, puisque il y a une autorité de régulation qui s'appelle le CSA qui peut être saisi si tel auditeur ou tel téléspectateur va mettre en cause le contenu d'un reportage ou d'un sujet. Et puis, il faut reconnaître aussi que, à l'intérieur même de la plupart des rédactions parisiennes, le sentiment global favorable à Israël, c'est en tout cas beaucoup accentué, on va dire, ces 20 ou ces 30 dernières années. Le paradigme de la presse française, qui a toujours été une presse sur la question israélo-palestinienne, de tradition, on va dire, pour employer un mot qui est un peu convenu, mais qui est réel, gaulo-mitterrandienne, c'est-à-dire une position quand même très attachée à l'indépendance de la Palestine, très marqué par la politique historique dite politique arabe du général de Gaulle, très marqué par le soutien après 62 du général de Gaulle à la lutte palestinienne, et notamment après 67, avec des déclarations quand même extrêmement fortes, qu'on a oubliées, du général de Gaulle, mais qui sont très importantes, très marqué aussi par le discours de Mitterrand à la Knesset en 82, qui appelait clairement, et c'était la première fois dans l'instance de ce Parlement, à l'indépendance de la Palestine et à la solution à deux États. Donc cette presse-là, cette tradition-là de la presse française qui dominait dans les années 80 et 90, ben, elle a changé depuis les années 2000, à la fois par faiblesse économique, par lâcheté idéologique, je dirais aussi, et aussi par une pression très forte du gouvernement israélien. Mais là, le gouvernement israélien, il est dans son rôle et d'une certaine manière, il fait son job, mais surtout des très nombreux relais du gouvernement israélien qui à la fois mettent la pression sur les journalistes sur place et aussi envoient régulièrement des journalistes en Israël. Et moi, plusieurs confrères m'ont raconté leur voyage. Ben, si t'es pas politique, je veux dire, ou si tu veux pas être politique, ou si tu veux pas voir, c'est vachement sympa. Tu vas à Tel Aviv, qui est une ville sympa et cool. Tu fais un tour en hélico dans le Negev, c'est vachement joli. Tu vois la vieille ville de Jérusalem et ils trouvent toujours un Palestinien qui va raconter des trucs, etc. Ou une manière de présenter les choses un peu biaisée, etc. Donc vous pouvez avoir une vision organisée, si vous voulez, de la réalité de la société israélienne et de la société palestinienne qui est totalement fausse. Évidemment, il arrive toujours un moment, et ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines en est la preuve, c'est que le mouvement social palestinien, l'émergence très forte de convergence aujourd'hui entre les Palestiniens de Jérusalem et ce qu'on appelle les Palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire des grandes villes israéliennes, les Palestiniens de Jérusalem-Est, les Palestiniens de Cisjordanie et c'est très important, les Palestiniens de Gaza, font qu'aujourd'hui, ben, une nouvelle force palestinienne est en train d'émerger, que d'ailleurs certains journalistes l'ont raconté, mais très peu. J'ai lu il y a 3 jours dans Le Monde un reportage totalement remarquable sur l'émergence de cette force politique. C'était un des premiers papiers que je lisais et je n'en ai vu aucun exemple dans la presse audiovisuelle et encore moins dans la presse audiovisuelle dite d'information qui, comme vous le savez, est largement alignée, là pour le coup, sur la droite française et par voie de conséquence sur la droite israélienne.
Alors, pour en revenir à ces quelques personnalités médiatiques dont tu parlais au début, on voulait te faire réagir à un propos de BHL, parce qu'en fait, au cours de la dernière séquence médiatique en date, on a pu entendre certains, dont BHL, certains de ses zélotes, lancer un autre type d'appel aux journalistes qui n'était plus justement un appel à l'information équilibrée, mais en fait tout le contraire. On a entendu donc Bernard-Henri Lévy, c'était le 15 mai sur BFM TV. Il était alors interviewé par Apolline de Malherbe hein, sur BFM TV. Donc. Et Apolline de Malherbe mentionnait les événements de Cheikh Jarrah, pour remettre un peu dans le contexte. Et BHL refusait quelque part d'entendre ça et faisait lancer un appel vraiment très très direct aux journalistes en les appelant, il disait je les conjure à réfléchir. Ils sont en train de remettre leur pas dans le vieil anti-sionisme, disait-il, et il les appelait à arrêter avec la symétrie. Ce qui là, on c'est comme une sorte de cap passé dans ce genre de déclaration publique, puisque la symétrie, en l'occurrence, est plutôt quelque chose de tu, mais une sorte de consensus, mais non dit. Là, c'est encore autre chose.
Ouais. BHL, c'est tout à fait intéressant, d'ailleurs, l'évolution de ce personnage, et spécifiquement sur cette question. On ne va pas parler du personnage en général, on en aurait pour trop longtemps. D'un soutien à la fin des années 90 et jusqu'au début des années 2000 au mouvement de la paix, à la gauche sioniste, au mouvement sioniste américain de gauche qui était très puissant et tout. Et à un moment, le temps s'est arrêté pour eux. C'est-à-dire que autant une partie de la gauche pro-israélienne américaine a considérablement évolué ces dernières années, considérablement radicalisé sur la question de l'analyse de ce qu'est le régime israélien aujourd'hui. Parce que le régime israélien aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, B'Tselem, qui est une des plus importantes ONG israéliennes des droits de l'homme, Human Rights Watch, qui est une des plus importantes organisations internationales des droits de l'homme, parle clairement d'apartheid. Cette question de l'apartheid de la société israélienne, de l'apartheid qui régit la vie de la société israélienne aujourd'hui, cette question du racisme qui est très prégnant dans la société israélienne, ils refusent de le voir. Ils refusent de le voir, ils refusent de le regarder, ils refusent de l'analyser. Et donc BHL maintenant est sur la ligne des zélotes d'extrême droite, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a plus de différence entre un BHL soi-disant progressiste ou démocrate et soi-disant reporter. Il vient de publier à fracas un livre de ses reportages dans Paris Match et le JDD, et trucs. Mais BHL n'a rien à voir avec le journalisme, il a tout à voir avec l'idéologie. Et aujourd'hui, quand il dit aux journalistes « ne parlez plus de Cheikh Jarrah », il dit aux journalistes « ne parlez plus d'une injustice qui révolte tout un peuple, mais qui révolte aussi la communauté internationale. Cheikh Jarrah, c'est depuis des années et des années l'ensemble des diplomates européens, une partie des diplomates américains, des diplomates de nombreux pays asiatiques, le Japon notamment, dont on parle très peu dans cette histoire, qui s'élèvent contre la situation qui est faite aux familles palestiniennes de Cheikh Jarrah. Et c'est pas d'hier. J'ai assisté moi-même en 2009, l'été 2009, donc il y a maintenant 11 ans, à des expulsions de familles palestiniennes à Cheikh Jarrah. Donc c'est une situation d'injustice. C'est un droit israélien qui est le droit de la force, au nom d'un pays qui se définit de manière raciste aujourd'hui, puisque la loi sur l'État-nation juif, est une loi raciste. Donc tout ça se met en place, et plus ça se met en place, plus les intellectuels français, contrairement aux intellectuels des pays du Nord, contrairement aux intellectuels britanniques, contrairement aux intellectuels espagnols, contrairement évidemment aux intellectuels et à une partie des hommes politiques américains, Bernie Sanders. L'engagement ces derniers mois de Bernie Sanders et de nombreux élus du Congrès démocrate, élus et élue, sur la question palestinienne est quelque chose de considérable dont on n'imagine pas en France. Dans d'autres parties de l'enquête, j'ai interrogé de nombreux députés. La plupart, à deux ou trois exceptions près, ont refusé de me parler de manière ouverte. C'est-à-dire qu'ils m'ont parlé en off et pas en on. Ceux qui m'ont parlé en on, c'est un député du Modem, Bruno Joncourt, député de Saint-Brieuc, Clémentine Autain, député de la Seine-Saint-Denis, Gwendal Rouillard, député de Lorient, appartenant, ce qui est paradoxal, à La République En Marche. Voilà. Deux ou trois autres, si vous voulez. Les gens, aujourd'hui, ont tellement peur de se faire mal voir et du système médiatique et d'un certain nombre de relais de ce système médiatique dont évidemment Bernard Olivier est la plus importante figure, mais pas forcément la plus harceleuse. C'est-à-dire que c'est pas Bernard Olivier qui va faire des tweets assassins à tel député, à tel élu, à tel journaliste, à tel militant. C'est évidemment les relais, et ces relais-là, ils s'expriment principalement sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. On a assisté à un scandale énorme dans notre pays. Il y a de nombreux scandales, malheureusement, tous les jours, mais enfin, le président de l'association France-Palestine Solidarité a été arrêté et menotté à la sortie d'un entretien avec un membre du cabinet du ministre des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, en présence de 3 élus de la République, 2 députés et une sénatrice. C'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui dans un autre pays que la France. Et donc tout ça fait partie de cette espèce de truc qui fait que le journaliste, parce que moi je n'ai jamais été correspondant, mais j'ai été très souvent sur le terrain, quand vous êtes sur le terrain, globalement, vous êtes seul, face à vous-même, face à votre déontologie, face à votre manière de travailler. Et quand en plus vous êtes seul, qu'au moindre papier vous allez avoir 100, 200, 300 tweets, injures, coups de fil, menaces, etc. Et qu'en plus vous n'avez pas un mot de votre rédacteur en chef ou de votre rédactrice en chef pour vous dire « vas-y Coco, tiens le coup, on est avec toi et tout », je vous assure que c'est quand même une situation assez difficile et que certains baissent les bras et Dieu merci, d'autres ne baissent pas les bras. Et ceux qui ne baissent pas les bras, je dois dire que dans cette profession aujourd'hui qui est en grande difficulté, vous le savez aussi bien que moi, et je leur rends totalement hommage, c'est évidemment tous les pigistes qui sont installés à Ramallah, Tel Aviv, à Jérusalem, et qui malgré la pression économique, malgré la pression idéologique, malgré le harcèlement qu'ils risquent de subir, continuent à rendre compte d'une situation dont dans tous les pays du monde on peut parler assez facilement, sauf aujourd'hui en France pratiquement.
Alors justement, on va revenir aux conditions de travail de ces journalistes. Dans ton reportage, tu écris que le match semble inégal tant le rouleau compresseur de la propagande est massif. Oui. Alors justement, il y a quelques jours, une ancienne correspondante pour la radio publique principalement, Marine Vlaovic, produisait un podcast en 5 épisodes sur Arte Radio, Carnet de correspondante, dans laquelle elle documente son travail de journaliste au cours des 3 années qu'elle a passées à couvrir les territoires palestiniens. Dans le 5e épisode, elle évoque le poids et le rôle d'un organisme israélien, cette fois-ci le GPO, Government Press Office, très influent sur la production journalistique. On écoute ce qu'elle en dit et puis tu réagis ensuite.
En plus de tenir la presse étrangère à l'œil, le GPO nous abreuve de communiqués. Du côté israélien, l'info, on vous la porte sur un plateau. Les journalistes croulent sous les éléments de langage et les éclairages orientés.
Mais c'est le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu. C'est le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu.
Au premier plan, il y a l'armée israélienne. En termes de communication, c'est aussi une machine de guerre.
Agence France Presse. Très bien, d'accord.
Ultra réactive.
S'il vous plaît, mettez vos téléphones en silence, histoire de mieux s'entendre.
Avec au menu, groupe WhatsApp, tweet instantané dans plusieurs langues et conf call régulière. Tout est fait pour que les journalistes restent vissés à leur chaise. Sur le terrain, tandis que les snipers tirent sur les Palestiniens à la frontière de Gaza, les porte-paroles font du copinage.
Alors ça, c'est typique, si vous voulez. C'est extrêmement intéressant. Et c'est typique. Alors, Israël, il ne faut pas oublier, est un pays qui est extrêmement américanisé dans son mode de fonctionnement, etc. Et aux États-Unis, depuis maintenant 15 ans, je crois que la bascule s'est faite en 2007, la profession de journaliste est allée en déclinant en termes de nombre de journalistes, et la profession de communicant est allée en explosant. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de communicants aux États-Unis qu'il n'y a de journalistes. En Israël, il s'est passé exactement le même phénomène. Parce que, si vous voulez, pour faire très court, la presse quotidienne s'est considérablement affaiblie, il y a beaucoup moins de moyens qu'elle ne l'a autrefois, il y a du mal à rebondir sur le web. La presse audiovisuelle, qu'elle soit privée ou dans les mains du gouvernement, est devenue des machines à communication globalement très pro-israélienne, à l'exception d'une chaîne du paysage audiovisuel israélien. Et donc, pour tous les journalistes, israéliens d'abord. Hein. Le gouvernement a mis en place toute une série d'outils qui sont des outils de pure propagande. C'est-à-dire qu'on va vous faire passer, pour parler un peu familièrement, des vessies pour des lanternes. On va vous présenter des sujets, puisque soi-disant les journalistes ont tendance à voir que le noir. Donc on va vous présenter, ben oui, alors Tel Aviv, il y a des boîtes de nuit merveilleuses, on y mange des sushis extraordinaires, il y a évidemment de l'innovation géniale en Israël, de la high-tech et tout. Enfin, quand on creuse un peu, je l'ai fait dans d'autres papiers que celui-là, dans cette série d'enquêtes, on sait très bien, et tout le monde le dit, et tout le monde le sait, et on le prouve d'ailleurs avec des éléments qui ne sont pas des éléments de langage, mais des éléments chiffrés, la high-tech israélienne, elle est née, elle est nourrie, et elle est pouponnée au sens propre du terme, au sein de l'armée israélienne. Et elle se nourrit des expériences de contrôle des populations auxquelles l'armée israélienne se livre dans les territoires de Cisjordanie et à Gaza. Donc tout ça, eh ben, on va vous présenter une start-up merveilleuse qui va faire des programmes extraordinaires de reconnaissance vocale, par exemple, pour l'automobile de demain, mais on va pas dire que tout ça, c'est né dans l'occupation de la Palestine. Donc ben voilà, tous ces éléments de langage-là, on en abreuve, les journalistes. Alors, c'est pas propre à Israël, il faut pas exagérer non plus, hein. C'est-à-dire que la Chine fait la même chose, et la plupart, la France fait un peu la même chose, dans une échelle plus modeste et certainement moins structurée, et puis la France, il y a trop de journalistes en France pour s'en occuper, mais Israël, où il y a aussi quand même une concentration de journalistes, évidemment à Jérusalem, qui est une concentration importante. Donc, l'élément de langage, l'organisation, la saturation de l'espace du journaliste par de nombreux communiqués, prises de position, engagements, la disponibilité, je le raconte dans le papier, mais c'est vrai, c'est très facile. Quand j'ai fait Mirage Guéret Tel Aviv en 2017, j'ai rencontré des gens du ministère du Tourisme, des élus de Tel Aviv qui connaissaient mon point de vue, puisque je leur exprimais, mais je les interrogeais comme journaliste, et ces gens-là m'ont parlé sans aucun problème, très facilement, des porte-paroles du ministère des Affaires étrangères, etc. Donc, c'est un pays qui a fait le pari de l'information, en transformant ce pari de l'information en pari de la communication. Et en saturant, et c'est très intéressant ce que dit cette ancienne correspondante à Ramallah dans ce sujet, en saturant l'espace mental du journaliste. C'est-à-dire que vous recevez tellement d'informations qu'au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être collectivement, et ça aiderait beaucoup les confrères qui travaillent là-bas d'ailleurs, je le pense, commencer à dire ras-le-bol. Ras-le-bol de la manière dont aujourd'hui l'information indépendante sur la question Israël-Palestine est traitée dans notre pays, ras-le-bol de la manière dont sont traités les citoyens et les citoyennes qui cherchent à faire entendre une voix différente que celle du gouvernement et du CRIF, qui sont quand même très très entremêlés aujourd'hui, malheureusement, sur la question israélo-palestinienne.
Merci.
Merci Jean Stern.
Merci
et
à vous.
Tu nous offres une belle fin. On invite encore une fois les auditeurs et les auditrices à retrouver tes enquêtes sur le site d'Orient 21.
Merci à vous.
Et on passe maintenant à la deuxième partie de l'émission avec un second entretien qu'on a voulu davantage orienter sur la critique du traitement médiatique et la critique des contenus à proprement parler. Bonjour Julien Salingue.
Bonjour.
Alors les lecteurs et lectrices d'Acrimed te connaissent bien puisque tu as été rédacteur pour l'association pendant plusieurs années et également son secrétaire de rédaction. Tu as notamment rédigé un certain nombre de papiers sur la couverture médiatique Israël-Palestine, une région que tu connais bien par ailleurs, puisqu'avant d'en arriver à la critique des médias, tu as soutenu une thèse de doctorat en sciences politiques qui portait sur la question palestinienne et l'autorité palestinienne. Tu es l'auteur par ailleurs de plusieurs publications, dont « La Palestine des ONG, entre résistance et collaboration », paru en 2015 aux éditions La Fabrique. Et tu es aujourd'hui membre de la direction du NPA. Alors pour rentrer dans le vif de la séquence récente, on voulait te poser une première question sur la temporalité des médias. Le 11 mai dernier, les Échos titraient un de leurs articles « Le retour du conflit israélo-palestinien ». Alors un des problèmes majeurs de la couverture du conflit qui oppose Israël aux Palestiniens est précisément son séquençage dans le temps par les médias. Pour le dire clairement, quand est-ce que les médias en parlent? Quand et pourquoi le conflit occupe l'agenda médiatique et la une de l'agenda médiatique? Est-ce que tu peux nous parler de cela au regard de la séquence récente et nous expliquer en fait en quoi ça pose problème?
Oui, alors là, pour prendre l'exemple des Échos, il faut se dire le 11 mai, c'est précisément le lendemain du jour où le Hamas a tiré pour la première fois depuis plusieurs années plusieurs centaines de roquettes en direction de l'État d'Israël. Donc en fait, ce que ça rappelle, une fois de plus, c'est que il n'y a de couverture médiatique, on va dire, branle-bas de combat à la une, etc., que lorsque il y a des opérations militaires palestiniennes. Et c'est à ce moment-là que ça remonte sur l'agenda médiatique. C'est-à-dire qu'en gros, on ne parle de manière multimédia, pour ainsi dire, de la situation en Israël et dans les territoires palestiniens que lorsqu'on est dans des phases, on va dire, d'affrontements militaires réciproques, d'échanges, entre guillemets, j'y reviendrai, de tirs, de missiles, de bombardements, etc. Donc ça ne veut pas dire que sinon on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement des reportages, des articles, etc. Mais une couverture comme celle de la récente séquence, c'est très clairement l'augmentation de l'intensité militaire qui fait qu'on va en parler. D'ailleurs, il suffit de voir quand est-ce qu'elle se termine, entre guillemets, cette séquence. C'est en gros quand il y a un cessez-le-feu entre Gaza et l'État d'Israël, on n'en parle plus. Voilà, donc on est vraiment là avec l'exemple type d'une séquence voilà, qui couvre un moment de conflit militaire particulier et puis en attendant entre guillemets le prochain. Le problème principal de ce type de couverture médiatique étant que on nous dit bon bah voilà, c'est comme en 2014, c'est comme en 2008-2009, c'est comme en etc. Et donc finalement on a des moments qui s'enchaînent avec parfois des années d'écart entre les deux, et finalement il n'y a pas de fil conducteur entre ces différentes séquences, ce qui fait que on en arrive à un traitement médiatique. Bah justement, dans un article pour Acrimed il y a quelques années, j'avais nommé ça le syndrome de Tom et Jerry. Pourquoi le syndrome de Tom et Jerry? C'est en gros cette idée, voilà, Tom et Jerry, c'est les deux personnages de dessin animé, voilà, ils se courent après, ils se font des pièges, ils se tapent dessus, etc. Et au moment où ils serrent la main, on sait qu'ils sont en train de déjà réfléchir à la prochaine fois où ils vont se faire des saloperies. Et en réalité, on a sur la couverture médiatique du conflit entre Israël et les Palestiniens un aspect Tom et Jerry, c'est-à-dire finalement, on comprend pas trop pourquoi ils s'aiment pas, on comprend pas trop pourquoi ils se tapent dessus, mais ce qu'on comprend, c'est qu'à intervalles réguliers, ils se tapent dessus. Voilà. Et quand on a une couverture de ce type-là, évidemment, on peut pas comprendre grand-chose. Et c'est finalement l'illustration de tout ça, c'est ces trucs récurrents qui reviennent dans la façon dont est qualifiée la situation là-bas. C'est le cycle de la violence a repris, c'est un nouvel engrenage de violence, etc. Là, j'ai regardé pour cette séquence-là, il y a quelques titres qui sont sympathiques. Voilà, donc on a « Roquette, émeute, lynchage, le Proche-Orient replonge dans le cycle de la violence meurtrière ». Voilà, donc c'est pas évident de comprendre exactement de quoi il s'agit. « Israël-Gaza, pourquoi un tel engrenage meurtrier ?» Voilà, donc c'est typiquement le genre de titre qui illustre ce truc-là, où finalement on ne saura pas ce qui se passe entre deux cycles de violence, et bien évidemment ça pose des problèmes notables.
Alors tu parlais du commencement médiatique, et aussi tu as évoqué la fin médiatique. On va peut-être écouter un reportage, pas un reportage d'ailleurs, une petite brève de Thomas Soto dans le 20h de France 2, et tu réagis ensuite. C'était, me semble-t-il, le 25 mai.
Quelques images d'insouciance qui contrastent avec celles de guerre que vous montrez il y a quelques jours encore là-bas. Regardez, c'est à Gaza où les familles, les enfants se sont rués à la plage aujourd'hui encore. Vous le voyez, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, un peu de joie aussi. Et je crois qu'il y avait même, vous allez voir après cette scène de foule, un âne qui était en train de se rafraîchir, le voilà. Les armes se sont à peu près tues dans la région depuis le 21 mai. 21 mai, date du cessez-le-feu, observé aussi bien par les Israéliens que par les activistes du Hamas.
Ouais, bah c'est voilà, il y a un âne qui se baigne à Gaza. Le reportage précisera pas que l'eau dans laquelle il se baigne est probablement très polluée, puisque une fois de plus dans les bombardements israéliens, les structures de désalinisation et de traitement des déchets ont été touchées. Il précisera pas, bon normalement il le fera pas, mais que l'âne peut pas s'éloigner trop loin quand même de Gaza, parce que sinon il va tomber sur les navires de guerre israéliens qui maintiennent le blocus maritime. Il précisera pas non plus que probablement sur la plage à côté de l'âne, il y a 80% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui dépendent de l'aide alimentaire. Il précisera pas que tous les gens qui sont à Gaza sont finalement sujets au même sort que l'âne, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas sortir de la bande de Gaza sans risquer de se faire tirer dessus. Voilà, et donc finalement, c'est quasiment paroxystique, quoi. On a cette impression que maintenant qu'il n'y a plus de roquettes qui sont tirées depuis la bande de Gaza et de bombardements israéliens trop violents, la vie a repris son cours. Et en fait, le problème, c'est quelle vie, quoi. Et ça, il n'y a pas. Et là, c'est typiquement vraiment ça. La vie reprend son cours, avec même la petite anecdote marrante, voilà, de l'âne. Bon, c'est assez délirant, mais finalement, c'est pas hyper surprenant, parce qu'en fait, ça confirme ce truc de, voilà, entre deux séquences violentes, finalement, on s'intéresse assez peu, et entre deux séquences violentes, on n'essaye même pas, finalement, de se dire, bon, bah, maintenant que ça s'est calmé, et maintenant, et peut-être on y reviendra, qu'on peut aller dans la bande de Gaza faire du journalisme, intéressons-nous un petit peu quand même à ce qui se passe, quoi. Pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé, comment les gens l'ont vécu, et quelles explications il y a. Non, pour les causes profondes, on repassera. Et du coup, à l'arrivée, voilà, on a ce traitement qui permet de rien comprendre et qui donne cette fausse impression que finalement, entre deux périodes de forte tension militaire, ça va. Ce qui est faux.
Au-delà de ce syndrome Tom et Jerry là que tu as utilisé dans tes articles pour Acrimed et qui désigne cette manière qu'ont les grands médias ne s'intéressaient qu'au moment où il y a un conflit militaire, tu utilisais aussi le concept ou l'expression de journaliste, de diplomate pour traiter des biais médiatiques dans la couverture du conflit israélo-palestinien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette notion?
Bah. Ouais, l'idée du journalisme de diplomate, c'est deux choses. La première, c'est que très souvent, le traitement médiatique est aligné sur l'agenda diplomatique. Mais alors à deux niveaux, donc ça va faire trois, enfin on se comprend. À deux niveaux, sur ce premier niveau, l'agenda médiatique, on va dire sur le temps long, C'est-à-dire processus de paix ou pas processus de paix, processus de négociation ou pas, etc. Et donc il va toujours y avoir un petit emballement médiatique au moment où il y a un petit frisson sur le plan diplomatique, alors que quand même, depuis maintenant 28 ans, que nous sommes dans la période dite du processus de paix, on devrait avoir compris que tout ça n'est quand même que des écrans de fumée. Mais voilà, il y a donc sur le temps long, et puis sur des séquences comme celle-ci, il va y avoir tout un emballement aussi sur que font les chancelleries occidentales, machin discute avec Truc, Macron a rencontré Sissi pour voir s'il pouvait discuter avec la Jordanie, pour qu'il discute avec le Qatar, pour éventuellement qu'il y ait un cessez-le-feu. Et on va nous faire plein de trucs autour de voilà ces trucs de coulisses. En plus, ça a un côté un peu voilà, secret, les alcôves et compagnie. Et là, typiquement, on a eu ça, c'est-à-dire sur l'histoire du cessez-le-feu, machin, les États-Unis, Biden et tout. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, et pendant ce temps-là, autant d'enquêtes qu'on ne fait pas, et pendant ce temps-là, autant de gens qu'on n'interviewe pas. Et il y a un deuxième niveau, qui est qu'en réalité, a fortiori sur des terrains comme celui-ci, en fait, souvent, les journalistes, en tout cas une partie des journalistes, finalement leur lieu d'insertion ça va être les expatriés et notamment les diplomates de leur propre pays entre guillemets. C'est-à-dire qu'on voit ça beaucoup, c'est-à-dire qu'ils fréquentent les mêmes lieux de socialisation et compagnie, et finalement leur première source d'information souvent c'est les diplomates de leur pays, donc du coup ça aide entre guillemets à se caler sur cet agenda-là et sur les préoccupations diplomatiques qui, on s'en rend bien compte, sont en général très éloignées des préoccupations des premières concernées, les populations, etc. Et parfois, mais là c'est pas forcément l'intention des journalistes, on peut se retrouver pris comme un outil ou un instrument pour les agendas diplomatiques, de faire fuiter, sortir telle information, etc., etc. Alors là, c'est pas exactement le diplomatique, mais on a vu un truc absolument incroyable qui s'est passé sur la dernière séquence à Gaza. C'est l'armée israélienne a fait croire à la presse qu'ils allaient rentrer dans la bande de Gaza. Ça a été repris par plein de médias et sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait c'était une fausse information dans le but militaire de détourner l'attention du Hamas d'un autre truc qu'ils étaient en train de préparer. Voilà, donc là c'est pas exactement la même chose, mais on voit bien quand même le rôle que tu peux te retrouver à jouer quand t'es trop soumis, on va dire, aux acteurs étatiques et pas suffisamment, on va dire, critique de ce qu'ils peuvent te dire, quoi.
Alors, il y a un format qui condense particulièrement bien les deux biais là, que tu viens d'évoquer, donc à savoir Tom et Jerry et ce journalisme de diplomate, ce journalisme par le haut. Hein. C'est les reportages, alors on va les appeler davantage des pastilles, les pastilles dites de remise en perspective. C'est des tentatives de, entre guillemets, réhistoriciser le conflit. Alors du type les cinq dates clés du conflit israélo-palestinien, ou une variante journalistique, comprendre le conflit israélo-palestinien en 5 minutes. Selon toi, qu'est-ce que ce type de format journalistique fait à l'information? Et pour orienter un peu la question, en quoi crée-t-il plus souvent de problèmes qu'il n'en résout?
Bah, l'intention n'est pas forcément mauvaise. C'est-à-dire que ça pourrait être d'essayer justement de contrebalancer ce dont on parlait avant. C'est-à-dire ne pas sauter d'un événement à un autre et de temps en temps essayer de se poser et dire bon, allez, allons-y, mettons ça en perspective. Le problème, c'est que c'est un exercice qui est quand même particulièrement difficile. Le conflit israélo-palestinien, entre guillemets, en 5 minutes. Enfin bon, il y a des gens, ils font ma thèse en 180 secondes, donc pourquoi pas. Mais bon, quand même, le principal danger de ces trucs-là, c'est que finalement, tu vas reproduire ce que tu crois que tu vas démonter. Et c'est avec les dates où c'est particulièrement marquant. Là, il y a eu entre autres des trucs autour de Jérusalem, voilà, les cinq dates sur Jérusalem. Bon, ok. Et donc, tu as cinq dates sur Jérusalem, c'est 67, 80, 88, 2000, 2018. Donc, tu sais pas trop pourquoi, en fait. Pourquoi ça commence en 67? Je veux dire, comme si avant 67, ça se passait bien à Jérusalem. Je veux dire, entre 47, 48 et 49, il y a des dizaines de milliers de Palestiniens qui se sont fait expulser de Jérusalem, par exemple. Mais là, bon, c'est pas dans les dates, quoi. Pourquoi 88, pourquoi machin, et finalement ça donne peut-être des séquences qui paraissent raconter une histoire, mais le problème c'est que ça raconte une histoire, ça raconte pas l'histoire. Et là, typiquement, en général, sur ces dates là il y a deux possibilités. C'est soit justement le truc de diplomate, c'est-à-dire tu prends les grandes batailles, quoi, les grandes batailles, les grandes déclarations, les grands accords, et finalement tu t'expliques pas la logique qui peut être derrière. Soit ça va être le truc de les trucs les plus spectaculaires. Et là, du coup, tu replonges dans le problème qu'on disait au début. Donc vraiment, je le dis, l'intention n'est pas forcément mauvaise, parce qu'il ne faut pas non plus être dans un truc ultra élitiste qui consisterait à dire qu'à chaque fois que tu parles de la question palestinienne ou d'Israël, il faut à chaque fois prendre 45 minutes pour revenir aux sources, au premier congrès sioniste à Bâle, en 1897, etc. C'est pas ça non plus. Donc c'est bien parfois d'essayer de le faire, mais sauf exception, enfin moi j'ai jamais vu un truc qui était satisfaisant, et au bout d'un moment, si on n'a jamais vu un truc qui était satisfaisant, c'est probablement que c'est pas possible à faire, mais que par contre c'est possible, et il y a des contre-exemples par rapport au mauvais traitement, c'est tout à fait possible, même dans des articles un peu courts, ou même dans des reportages un peu courts, de donner des éléments qui se veulent pas tout expliquer, mais qui permettent au moins de contextualiser, de comprendre les choses. Et finalement, bon, pour voilà, conclure sur ce truc là c'est quasiment le, on va dire, l'existence de ces petits trucs là 5 dates pour comprendre, 5 minutes pour raconter l'histoire, va être le truc qui va, entre guillemets, conforter ou rassurer pour faire des articles ou des sujets où on dit rien de tout ça. C'est tout ou rien, quoi. Et malheureusement, en général, du coup, ça fait rien et rien, quoi.
Pour en revenir à la dernière séquence médiatique en date, sur le site d'Acrimed, on a très, pas seulement cette fois-là, mais on a très régulièrement documenté l'usage d'un lexique inapproprié, systématique et commun à la quasi-totalité des médias. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous expliquer aussi en quoi... c'est pas un détail ou une coquetterie de parler du vocabulaire, mais en quoi ça révèle au contraire des partis pris éditoriaux de fond.
Ouais, les mots sont importants, comme diraient les autres, parce que les mots, en fait, ils racontent la façon dont tu donnes à voir quelque chose de complexe, quoi. Et en fait, il y a ce que je disais sur le syndrome de Tom et Jerry, qui est plus voilà, les temporalités, les rythmes et le manque de continuité, voilà, de fil conducteur, et finalement d'explications causales, les tendances de fond, les explications de fond et tout. Et après, sur les termes qui sont employés, en fait, ce que ça révèle en général, c'est finalement ce que moi je vois comme une tendance dominante, qui est celle de vouloir appréhender la situation de manière équilibrée. Voilà, il faut appréhender la situation de manière équilibrée. Le bon journalisme et le bon journaliste, ça serait celui qui s'imposerait la neutralité et donc qui ne prendrait pas parti en faveur de l'un des deux camps, et qui du coup serait capable d'avoir un traitement équilibré. Ce qui va donner concrètement la construction d'un discours avec des termes qui vont permettre de donner à voir cet équilibre. Et avant de donner des exemples, je vais expliquer pourquoi ça marche pas. En fait, ça ne peut pas fonctionner parce que on peut pas donner à voir de manière équilibrée une situation qui est déséquilibrée. Et quel que soit, y compris des partis pris idéologiques qu'on peut avoir, en fait, la situation entre Israël et les Palestiniens est déséquilibrée. C'est-à-dire que d'un côté, on a un État avec une armée, des institutions, une économie, bon, en crise comme partout, mais quand même une économie, etc. Et de l'autre côté, on a une population fragmentée, isolée, qui n'a pas de droit, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas droit d'avoir une armée, qui n'a pas d'économie, qui n'a pas de frontières à elle-même, etc. Et donc, en réalité, un truc qui est très déséquilibré. Et si tu veux équilibrer une situation déséquilibrée, bah, en réalité, tu vas raconter qu'une partie de la réalité, où tu vas déformer la réalité. Et il y a un côté paradoxal, parce qu'en fait, finalement, ce que ça donne, c'est que, on va dire, les pro-palestiniens, avec beaucoup de guillemets, vont trouver que le traitement médiatique est pro-Israël. Par contre, les pro-Israël, ils trouvent que le traitement médiatique est pro-palestinien. En fait, moi, je pense qu'il est ni l'un ni l'autre, c'est juste qu'il est pas bon. Et du coup, personne n'y retrouve ce qu'il voudrait y voir, parce que ça donne à voir un truc qui est très, très, très déformé. Et pour venir concrètement sur ce que ça veut dire, c'est que on disait avant qu'on va s'intéresser beaucoup au moment de tension militaire, ça c'est parce qu'il y a le côté spectaculaire et tout, mais c'est qu'on va s'intéresser principalement aux informations qui concernent les deux camps, et donc dont on va pouvoir parler presque simultanément. Donc ça va être les échanges de tirs, ça va être les affrontements, ça va être les morts des deux côtés, ça va être etc. Et ça va donner à voir un truc très 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 artificiel pour... revenir sur une séquence précédente, on va dire, où là, pour le coup, j'avais fait un truc pour Acrimed à l'été 2014. Donc, été 2014, séquence de bombardement israélien sur la bande de Gaza, etc. Et au bout de, je sais plus, une semaine ou 10 jours, il y a une centaine de morts à Gaza et 0 mort israélien. Mais par contre, les titres de la presse, ça va être Israël-Hamas, plus de 100 morts en 4 jours. Ça va être Israël-Hamas, nouvelle journée d'affrontements meurtriers. Ça va être raid sur Gaza et tir de roquettes en Israël, journée meurtrière au Proche-Orient. Alors qu'il n'y a des morts que d'un côté, mais on va dire journée meurtrière. Et là, on a eu le même genre de choses cette fois-ci, c'est-à-dire on va avoir... Là, j'ai vu quelques titres, c'était conflit israélo-palestinien, nouveaux affrontements entre palestiniens et police israélienne à Jérusalem-Est. Mais qui peut... Enfin, ça paraît... Il y a des affrontements entre les palestiniens et la police. Ok, mais en fait, il y a 500 palestiniens qui ont été blessés ce jour-là, et 2 flics, je crois. Donc en fait, ça s'appelle pas des affrontements, normalement. Ça s'appelle la répression d'une manifestation. Ou l'intervention policière sur une manifestation. Il y a d'autres exemples de ce type-là. Là, on avait, c'était Euronews, excellent titre. Israël-Gaza, toujours plus de roquettes, de raids et de morts. Donc, c'est-à-dire, on construit un espèce de tout où, à l'arrivée, au nom de l'équilibre, on donne à voir une situation qui est fausse. Enfin, voilà, ce n'est pas vrai, les choses ne se sont pas passées comme ça. Et parfois, à force, parce qu'y compris au bout d'un moment, il y a les trucs automatiques, quoi, du langage automatique, l'engrenage de la violence, le cycle de violence, l'escalade militaire, etc. Enfin, l'escalade militaire entre Israël et le Hamas, enfin, je veux dire, entre les roquettes et des gens qui ont l'arme nucléaire, enfin, vous voyez le genre d'escalade, c'est quand même assez bizarre comme terme. Et des fois, ça va jusqu'à l'absurde. Et là, par exemple, c'était Fabienne Sintès qui recevait Frédéric Ancel, encore un expert bien neutre, celui-là, sur France Inter, et qui a utilisé l'expression suivante: lorsque les roquettes entre Israël et le Hamas auront cessé. Bon, alors, elle se loupe, quoi. Je veux dire, peut-être que c'est... Mais voilà où on en est. Les roquettes entre Israël et le Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Et des fois, ce truc permet aussi... ces procédés permettent aussi des trucs que je pense, moi, franchement malveillants. Et par exemple, l'AFP a titré une dépêche: pluie mortelle de roquettes sur Tel Aviv, frappe musclée d'Israël sur Gaza. Là, on n'est pas juste dans le loupé. Là, on est dans le malveillant. Mais le problème, c'est que ce malveillant passe parce qu'il y a le fond habituel de finalement tout ça n'est qu'un match de ping-pong entre deux parties dont on comprend pas pourquoi ils se tapent dessus et dont on essaye de donner l'impression que finalement ils sont un peu à égalité dans la façon dont ils vivent tout ça. Donc ça déforme la réalité, clairement.
shall be.